biodiversité et climat, même urgence, même combat. Un cycle d'émissions organisé par Bouygues Immobilier sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission du cycle exceptionnel organisé par Bouygues Immobilier depuis le siège du groupe Bouygues au 32 Avenue Hoche à Paris, non loin de l'œuvre de Christo, et diffusé sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria, un cycle qui est consacré à la biodiversité en ville mais aussi au climat avec ce thème, vous l'avez entendu, biodiversité et climat, climat et biodiversité, même combat. Alors après avoir partagé les enjeux pour le climat et la biodiversité avec deux éminents scientifiques et en dialogue avec le président de Bouygues Immobilier, place au comment faire, aux solutions, à l'action pour une balade, vous allez voir, j'insiste, sonore, qui va vous inviter à sortir et à découvrir le monde et la ville avec quatre intervenants que je vais vous présenter brièvement et que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Alors l'acte 2 de ce cycle spécial s'intitule, tenez-vous bien, « Développer la vie », nous l'avons préservé en listant les enjeux, de l'engagement biodiversité aux actes concrets pour des immeubles jardins favorables aux expériences de nature. N'en jetez plus, c'est parti. Alors, je me tourne tout d'abord, tout à ma gauche, vers Safia Larabi. Vous êtes directrice des publications de la Fabrique Spinoza, qui est un cercle de réflexion, un think tank dédié au bonheur citoyen. Vous allez nous donner la recette, nous en avons bien besoin. Alors l'observatoire Spinoza de la Fabrique que vous dirigez crée des passerelles entre la recherche, dans une grande diversité de disciplines, on va le voir, les acteurs de la vie associative et de la vie économique. L'observatoire publie à peu près 2 études par an et l'une des dernières en date, tiens, est consacrée au thème, je cite, « Nature, santé, engagement ». C'est une somme de près de 500 pages qui résume un travail très conséquent et dont vous allez partager avec nous quelques aspects clés en 7 minutes évidemment. Alors, Pascal Dalix, vous êtes architecte, vous êtes cofondatrice avec M. Frédéric Chartier de l'agence Chartier Dalix et depuis quelques années, vous intégrez le paysage à vos projets architecturaux mais aussi vous menez une recherche-action active pour développer des systèmes qui soient robustes dans le temps et les plus frugaux, dans la frugalité possible, qui soit favorable à l'implantation du vivant, pas seulement dans l'enveloppe du bâti, on va le voir plus en symbiose. Alors grâce à vous, c'est le volet balade, nous allons découvrir quelques projets qui ont été menés par votre agence. Et chères auditrices et chers auditeurs, et vous ici présents, je vous inviterai ensuite à aller vous rendre sur les lieux pour vivre ces expériences. Ce sera notre dernière intervenante dans le tour de table, mais je la présente maintenant car nous n'allons pas sacrifier la bienséance. C'est Olivia Conil-Lacoste. Vous êtes directrice développement durable et RSE de Bouygues Immobilier et vous avez, avec vos collègues, impulsé, vous mettez en œuvre la prise en compte de la biodiversité à travers une feuille de route de l'entreprise. Et puis, si vous êtes là, si je puis dire, ça n'est pas pour faire de la figuration. Celles et ceux qui travaillent avec vous le savent. Vous vous déplacez des montagnes et avec... En écho aux propos de votre président, vous avez la tâche de mettre en action et en mouvement tout le monde pour le changement de paradigme dont M. Mounier a parlé précédemment. Et enfin, Jean-Marc Bouillon, vous êtes paysagiste concepteur, ce que l'on dénommait auparavant vulgairement architecte paysagiste. Et je souligne ce point car c'est à vous que l'on doit, notamment dans la loi sur la biodiversité, la nature et la reconquête des paysages de 2016, le titre de paysagiste concepteur. Mais ça n'est pas tant de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Taka et Conseil, du nom d'un petit oiseau, si je ne m'abuse. Mais vous êtes là aussi en tant que président d'un fonds de dotation, n'est-ce pas, créé avec l'interprofession du végétal et du paysage, Valor, qui s'appelle Intelligence Nature. Alors, petite anecdote, nous sommes ici dans une ambiance végétale. Le végétal représente, si l'IPBES dit vrai, 82% de la biomasse. Voilà. Et pour vous, la nature peut rendre des services si tant est qu'elle est considérée comme une infrastructure. Voilà pour les intervenants. Nous avons un peu plus de 40 minutes pour aborder tous ces thèmes. Je laisse tout d'abord la parole à Safia.
Merci Pierre, merci à tous d'être présents, ravi de vous rejoindre aujourd'hui. Donc notre étude « Nature, santé et engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique » est née du constat que le discours actuel autour de l'écologie peine à générer un engagement suffisant. 47% des Français trouve le discours politique et médiatique actuel décourageant plutôt qu'incitant à l'action. Tant et si bien qu'il apparaît une angoisse nouvelle, une sorte de dépression verte, un stress pré-traumatique qu'on appelle l'éco-anxiété. Aussi, à l'alerte, à l'injonction, au sacrifice et à la culpabilité, il est nécessaire d'apporter un autre discours plus émotionnel, fondé sur nos sens, notre identité, nos motivations profondes, nos facultés à s'émerveiller, nos émotions. Car ce qui nous meut, ce qui nous émeut, nous met en action. Immovere. Donc notre think tank, la Fabrique Spinoza, a proposé dans l'étude un grand plaidoyer d'écologie, positif et vertueux, reposant sur les bienfaits de la nature, notamment sur la santé, et glissant de l'émerveillement à l'engagement. Donc cette étude a été réalisée avec le soutien de Bouygues Immobilier, Nantes Métropole, ARP Astrans, Veolia, l'Office français de la biodiversité et Nestlé Céréales. Un autre constat est que nous avons oublié la nature. 41% des Français ont oublié ce que c'était que de vivre une expérience de nature, une véritable expérience intense et profonde. On entend parler d'extinction de l'expérience de nature, d'amnésie environnementale générationnelle. Par exemple, les enfants sont plus enclins à reconnaître une espèce exotique, comme le toucan, qu'une espèce aussi commune que le merle. Donc notre étude propose un chemin de reconnexion à la nature dans nos différents espaces de vie que sont le logement, la ville, le travail, l'éducation, l'alimentation, la consommation et les loisirs. Alors les bénéfices de la nature sont nombreux. Notre étude a exploré, vous l'avez dit, des centaines d'études, et il y a 700 notes de bas de page, c'est assez intense. Et nous avons croisé toutes ces données et proposé une cartographie des différents bienfaits de la nature, donc physiques, émotionnels, cognitifs, sociaux, également spirituels, de sens et d'appréciation de la vie, sans oublier les systèmes écosystémiques de la nature qui sont indispensables au bon fonctionnement du monde et à notre propre survie. Donc laissez-moi vous partager quelques pépites. Donc savez-vous que la proportion des espaces verts dans une zone urbaine, plus elle est élevée et plus la santé de la population est bonne. La proximité de la végétation diminue les risques de mortalité de 8 à 12%. Et avoir 10 arbres dans son pâté de maison augmente l'espérance de vie en bonne santé de 7 ans. Par ailleurs, les chercheurs nous disent que hospitalisés, nous récupérons plus vite et prenons 2 fois moins d'antidouleurs lorsque nous avons une vue sur du vert. Les troubles du développement de l'attention des enfants sont inversement proportionnels à l'espace vert qui les entoure. Au contact de la nature, 63% des Français se sentent pleins de vitalité, animés d'émotions positives variées, s'ouvrant davantage aux autres, au point que selon les chercheurs, le contact fréquent de nature contribue au sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Tant et si bien que pour certains, White et collaborateurs, ça a autant de sens que le fait d'être marié. Donc je vous laisse apprécier. On entend souvent parler des bains de forêt et on entend beaucoup moins les bénéfices sur le système immunitaire qui perdurent jusqu'à 30 jours après l'immersion. Le plus surprenant peut-être est que même feinte, la nature procure des effets. 90 secondes d'exposition à une photographie de forêt favorise l'équilibre affectif et la réduction du stress. Et 40 secondes, c'est le temps minimum suffisant pour la nature pour agir de manière significative sur notre système attentionnel. Maintenant, je vais évoquer avec vous le besoin de repenser la nature en ville. Alors, au-delà de la crise sanitaire qui a évidemment mis en lumière le besoin vital d'accès à la nature, c'était déjà 8 Français sur 10 qui affirmaient l'importance de la nature en ville et 92% a estimé qu'il n'y en avait pas assez.
Alors comment redonner sa place à la nature ? L'éco-conception et les éco-matériaux permettent de construire la ville avec la nature. On trouve des trésors d'innovation de la nature orientée solution. Alors, quelques constructions à partager. La tour Hi-Fi, que vous connaissez peut-être à New York, qui, au milieu des tours de verre, est un pavillon qui a la caractéristique particulière d'être construit de 10 000 briques organiques de champignons biodégradables. La tour est littéralement vivante, elle réfléchit la lumière et la température et est à empreinte carbone nulle. La Sierpinski Forest est une technique de construction de toiture qui s'inspire du ramage des arbres pour réduire les îlots de chaleur urbains. C'est la géométrie fractale. Il existe également un béton auto-cicatrisant, comme la peau, qui permet d'anticiper les failles du béton. L'eau s'infiltre, les bactéries se fixent et le calcium colmate. Selon Clémence Béchu, il est possible d'atteindre une économie globale de 30% de matière utilisée, comme elle le montre dans son projet D2 de la Tour de la Défense. Donc, un autre axe est de réduire l'impact des constructions sur l'environnement. C'est la démarche du bâtiment à biodiversité positive et j'imagine que vous en parlerez mieux que moi. Qui est un objectif fort de Bouygues Immobilier. C'est un objectif partagé par ARP Astrans qui propose une démarche de construction de leur projet centrée sur le fait de comprendre le site en termes de biodiversité grâce à l'élaboration préalable d'un inventaire, puis ensuite d'intégrer la biodiversité au projet et de faire vivre l'interface entre la nature et la ville. Enfin, pour faire vivre notre lien à la nature, il y a plusieurs chemins, et je vous en cite deux qui sont présents dans notre étude. La nécessité de recréer une nature continue, c'est-à-dire sans interruption, pardon, pour permettre aux vivants de circuler. Donc, ce sont les trames vertes du végétal, bleues de l'aquatique, brunes de la terre et noires pour les espèces nocturnes. À Nantes, les coulées vertes sont connectées au grand parc et espaces verts, ainsi que le long de la Loire jusque l'arbre au Héron au centre du jardin. Il s'agit également d'adoucir notre mobilité pour penser la ville du quart d'heure, où les déplacements seraient tous de proximité. Et parfois, c'est aussi simple que d'ajouter une entrée à un parc pour rapprocher l'espace vert du citadin. Il s'agit d'une manière de repenser la ville et de porter attention aux détails pour rendre à la nature une place essentielle.
Alors merci Safia, je portais attention aux détails le demi quart d'heure qui s'écoule. Merci pour cet exposé synthétique. Apparemment, on récupère plus vite dans une forêt. Nous ne sommes pas dans une forêt ici, mais dans une ambiance végétale. Donc j'espère que vous aussi, à distance, vous allez récupérer plus vite et puis que ça va perdurer 30 jours, car le podcast, lui, est là pour toujours. Et ce podcast, vous pouvez le regarder notamment sur votre smartphone. Et vous disiez que les jeunes, dans lesquels je m'inclus encore un peu, connaissent mieux le toucan que des espèces locales. Mais on connaît aussi Smartphonus Addictus, voilà, qui est un outil qui sera bien utile pour le podcast. Alors, nous avons cité des grands principes, des leviers, des bénéfices sur l'émotion. Mais je vous le disais, il y a une invitation à une balade urbaine. C'est ce que nous allons faire avec l'agence Chartier d'Alix. Ici avec Pascal. Alors, à distance, vous allez avoir des images et pour celles et ceux qui sont dans la salle, eh bien, vous pourrez les regarder à la suite du propos de Pascal qui va être déconnecté mais de ces images, mais qui va y faire référence. Voilà, donc c'est parti. Pascal, vous avez quelques instants pour nous expliquer l'engagement de votre agence et quelques projets.
Merci. Donc vous êtes privé d'image, donc je vais essayer d'être explicite. C'est vrai qu'on a séparé progressivement. Moi, je suis architecte, donc c'est vrai que dans toutes ces questions de vivant, de biodiversité, d'architecture, moi, j'ai envie de faire. Hein, donc c'est un peu ça dont je vais parler pendant 7 minutes. Mais c'est vrai que progressivement, l'être humain a séparé le monde du minéral et le monde du végétal pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'effectivement, une ville, bah, il faut bien se préserver des bêtes sauvages et de tout ce qui pourrait l'envahir. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas été un petit peu loin dans cette cette séparation, dans cette scission. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on est un petit peu tous à l'unanimité en train de se re-questionner. Et c'est vrai qu'en avançant dans les réalisations et dans notre travail, je me rends de plus en plus compte qu'il n'y a pas de limite, ou en tout cas, on est loin d'avoir atteint la limite de cette proximité homme-nature, et qu'il y a vraiment un lien à reconstruire avec la nature dans les milieux en ville, notamment denses, qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus denses. Et c'est vrai que il y a encore beaucoup de gens qui sont captifs de la ville et qu'on ne peut pas sacrifier des générations entières de gens qui ne peuvent pas partir le week-end à la campagne, aller goûter la fraîcheur de quelques arbres, etc., et que les conditions climatiques sont en train d'être dramatiques. Donc, ce que nous, on essaye de développer à l'agence, moi, je pense qu'il n'y a aussi aucune limite sur les programmes, c'est-à-dire que la question de l'accueil du vivant sur l'architecture, dans l'architecture, autour de l'architecture, concerne tous les programmes. Je pourrais parler de l'école de la ville de Boulogne, que nous avons réalisée il y a 6 ans maintenant. C'est d'ailleurs l'entreprise Bouygues qui l'a réalisée, avec beaucoup de prouesses, parce que c'est une école un petit peu expérimentale, qui accueille la biodiversité en toiture et en façade. En toiture, on a carrément 1 mètre et quelques de terre, avec 2000 mètres carrés d'espace planté, avec les 3 strates, la chênaie Charmet, la fructissée, la prairie de Fruche. On essaye de reconstituer un milieu naturel qui n'a pas besoin de la main de l'homme pour être entretenu. À côté de ça, il y a toute la partie expérimentale pour les élèves, c'est-à-dire des jardins pédagogiques et cette fructissée qui est censée recevoir beaucoup de biodiversité. Des expériences sont menées sur cette école. Maintenant, ça fait 6 ans qu'elle existe. Donc, beaucoup, beaucoup de chercheurs viennent la voir. L'ARB en a fait un de ses sujets d'études. On s'est rendu compte, par exemple, au bout de 2 ans, qu'on avait planté 74 espèces. Au bout de 2 ans, il y en avait 144. Maintenant, on est au bout de 4 ans. Donc, il faut regarder l'ARB. J'ai pas encore tout lu, tout leur dernier rapport. Mais donc, les choses sont extrêmement encourageantes. Quand les chantiers ont quitté le quartier du Trapèze, la vie peut revenir. C'est ce que Gilles évoquait tout à l'heure. Quand il y a des poches, Morizet en parle très, très bien. Faire revivre les traces du vivant, quand il y a des poches, ça revient. Et c'est pour ça que l'architecture est aussi une mine pour accueillir ça. Et sur un équipement comme une école, c'est hyper intéressant parce qu'on mobilise la génération qui vient après, et c'est sur eux qu'il faut compter. Donc cette école, par exemple, de 20 classes, a mobilisé tous ses enseignants, tout son enseignement autour de les apprentissages autour de l'environnement, de la biodiversité, du vivant. Et là, il y a une histoire extraordinaire qui est en train de se tisser avec des générations d'élèves. Et un autre projet, il y a d'autres programmes comme ça qui tissent aussi des liens qui sont hyper intéressants. Puisqu'on est dans l'enseignement, on a livré récemment la caserne de l'Oursine. C'est une caserne qu'on a transformée en université de droit. Donc le programme est un peu cocasse, mais en même temps, ça fait du bien qu'une caserne ne soit pas un lieu sous cloche, mais qu'il reprenne vraiment une place dans l'échiquier urbain. C'est Bouygues également, c'était pas une pub, j'y pense à l'instant, mais qui a effectivement fait ce chantier extrêmement complexe. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la place d'armes. La seule chose qui était classée sur ce bâtiment, dans ces bâtiments, qui datent de 1850 à peu près, c'est vraiment les casernes traditionnelles, ce sont les platanes. On est parti des platanes et on a déroulé tout le projet. Et du coup, les platanes, ils sont sur la place d'armes. La place d'armes, on va la baisser, on en fait une vraie topographie avec plein de graminées. Et c'est autour de cet espace-là que tout le projet va s'articuler. Et on a pris soin, tout à l'heure vous parliez du bien-être quand on est face à du végétal, etc., pour que tous les espaces d'enseignement, depuis tous les espaces d'enseignement et les circulations, on est tout le temps une vue sur le jardin qui est cette ancienne place d'armes. Donc elle est omniprésente, en fait, d'une manière ou d'une autre, furtivement. À mon agence, c'est la même chose. Si j'ai le plaisir de vous recevoir un jour, partout où on est, on a toujours une vision sur le végétal. Et enfin, peut-être des projets plus domestiques. C'est vrai que le logement aussi, on peut passer 20 ans dans son logement sans connaître son voisin. Comment ça se fait qu'on en arrive encore là aujourd'hui, alors qu'on parle de commun, alors que tout le monde a envie que les gens se parlent, alors qu'il y a une volonté quand même de retrouver un petit peu de domesticité dans les quartiers? Eh bien, à Pantin, par exemple, c'est autour du jardin que tous ces habitants se retrouvent. Il y a du logement social, il y a des maisons individuelles, il y a des logements, il y a des bâtiments de 7 étages, etc. Il y a plein de typologies différentes de logements. Et pourtant, le jardin dans lequel on n'a voulu aucune clôture est en train de devenir le lieu qui concentre tout le commun et tout, tout l'aspect aussi de faire des choses ensemble, du faire ensemble, parce qu'il y a des jardins pédagogiques, parce qu'il y a des espaces partagés, etc. Et donc le jardin, vraiment à différents niveaux, est vraiment vecteur de beaucoup plus que juste du vivant. Et pour finir, peut-être, je dirais, tout à l'heure vous disiez, quand on ne sait pas faire, on n'ose pas faire. Mais en fait, on ne prend pas tellement de risques à essayer de faire des choses qu'on ne sait pas faire. On les expérimente. C'est comme dans un jardin. On expérimente, ça ne marche pas, on recommence, on taille, on replante, etc. Et nous, on a donc cette vraie volonté d'installer le vivant au plus proche des bâtiments. Et on est en train de développer, du coup, plusieurs projets à ce titre-là, dont un projet qui est le siège de la PHP, qui est en train d'être installé à Paris dans le 12e arrondissement de l'hôpital Saint-Antoine. Et là, c'est un confrère, enfin un autre constructeur qui travaille avec nous sur ce projet, avec qui on a déposé un brevet, avec un mur de soutènement qui porte du vivant, avec toute une stratégie de fabrication. Mais on a aussi, au siège du Muséum d'Histoire Naturelle, rue de Buffon, un prototype où on expérimente trois nouveaux matériaux, la pierre sèche, la brique et le monomur. Et ces trois matériaux dans lesquels qu'on a installé d'une certaine manière pour créer, comme un jardin, mais à la verticale, avec tout un système de terre qui est mis en réseau. Et donc voilà, c'est des expérimentations. C'est aussi un appel à des maîtres d'ouvrage, à des gens qui ont envie de faire confiance à l'expérimentation. C'est pour ça que ces expérimentations sont visibles depuis l'espace public, qu'on est en train de les étudier, l'hygrométrie, etc., pour qu'un jour, on puisse développer des choses qu'aujourd'hui, on n'a pas développées. Voilà.
Merci beaucoup, Pascal. À vous écouter, on était déjà en mouvement. Si vous voulez visiter l'École des sciences et de la biodiversité, voir les trois strates, les arbres, les arbustes, notamment fruitiers, et les herbes, ainsi qu'une enveloppe assez extraordinaire, c'est à Boulogne-Billancourt. Si vous voulez voir une ancienne place d'armes, d'une caserne transformée en esplanade multiniveau avec des platanes qui étaient là, c'est important, c'est de l'économie circulaire, à la racine, on évite de détruire, transformée en université de droit, c'est dans le 12e. Si vous voulez voir un immeuble de logement avec quatre, je crois, typologies de logements différents, avec des communs, des espaces privés à usage public et une ouverture, une porosité sur l'extérieur, ça se passe à Pantin. Et puis, l'expérimentation, c'est rue Buffon dans le 5e. Alors, je ne suis pas parisien d'origine, si vous n'êtes pas parisien, venez, il y a des choses à voir.
Et il y a même une autre expérimentation qui est la Tour Montparnasse.
Là, on dépasse.
Qui est, elle, beaucoup plus facile à voir depuis quand on est parisien.
Et ben voilà. Et puis, si vous prenez le train vers le Grand Ouest, arrêtez-vous et allez voir. Donc, vous êtes l'agence sortie d'Alix, composante de la nouvelle AOM, qui est l'équipe qui a projet de restaurer la Tour Montparnasse. Alors allons maintenant à Lyon, en tous les cas avec un Savoyard devenu lyonnais depuis quelques années. Je me tourne vers Jean-Marc Bouillon. Alors Jean-Marc, c'est un petit peu comme Gilles Boeuf, on sait quand ça commence et avec grand bonheur, c'est un peu moi aussi ce problème, on ne sait pas quand ça finit. Alors Jean-Marc, vous avez 7 minutes pour nous dire comment, d'après vous, la nature peut aider à adapter la ville au changement climatique. Vous avez vu la promesse ? Jean-Marc, c'est à vous.
Merci d'abord, merci de m'avoir invité. Les débats étaient absolument passionnants. Merci à nos deux scientifiques. Une partie de la réponse a été apportée par Gilles tout à l'heure, quand il citait avec son thermomètre la différence d'écart entre le jardin des plantes et la ville, les 7 ou 8 degrés. Il y avait une étude d'ailleurs, je crois, de l'Apure qui avait fait un parcours en partant du parvis la gare du Nord en direction de la butte Chaumont et on constatait du même écart. Alors, oui, évidemment. Toutes les villes partout sur Terre qui s'intéressent à la question du réchauffement climatique aboutissent tous à la même conclusion. La nature est une réponse, est une ressource puissante, elle est frugale, elle est pérenne et elle est économe. Donc la nature est une réponse pragmatique. Encore faut-il savoir comment le faire, comment l'utiliser, à quel endroit. Donc moi, je me suis un peu intéressé à cette question parce qu'en se mettant à la place d'un élu qui regarde une photo aérienne de sa ville, quand il voit cet entre-là de parcelles cadastrales, de domaines publics, de domaines privés, etc., il regarde ça et se dit, il faut que je bâtisse une stratégie d'adaptation de ma ville au réchauffement climatique, mais mon Dieu, par où je commence et qu'est-ce que je fais ? Et c'est assez difficile d'extraire faire ça. Donc c'était voilà, le fil rouge de mes travaux, un petit peu d'investigation. Et on s'aperçoit que de plein de choses finalement. D'abord que pas d'eau, pas de végétal. Donc, on voit malheureusement beaucoup d'appels d'offres qui sont lancés en ce moment sur des stratégies de végétalisation massive des villes qui n'a pas comme préalable la question de l'eau. Alors, c'est un point qui est extrêmement important parce que je vais vous donner une stat de la ville de Lyon en 1996. Lyon, qui était quand même une ville assez précurseur pour la question de l'arbre, de l'aménagement urbain. En 1996, 50% des arbres remplacés chaque année avaient moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'on les plante dans des situations qui sont difficiles, dans des situations d'échec. Et en 96, il faisait pas chaud comme aujourd'hui, on avait le droit d'arroser. Or, comme il y a un delta de plus en plus important qui existe entre la ressource en eau et le besoin, nos préfets vont de plus en plus souvent prendre des interdictions d'arrosage. Et il va se passer deux choses. Au mieux, les arbres vont arrêter la clim parce qu'ils vont rentrer en situation de stress hydrique, donc ils vont arrêter d'évapotranspirer, et au pire, ils ne vont pas reprendre. Donc il est impératif d'attaquer tous les projets, la question de l'eau pluviale. Et l'eau, il faut, dans notre système urbain, considérer comme plutôt un déchet, quelque chose l'ennemi de la construction, quelque chose dont il faut se départir au plus vite. Hein. On dit l'eau, l'ennemi de nos fondations. On l'emmène au plus vite dans une petite grille à valoir. On accélère. D'ailleurs, on transforme cette ressource extraordinaire en quelque chose de dangereux. Hein, parce que finalement, quand on met en mouvement un mètre cube d'eau, on met en mouvement une tonne. Et donc, on se retrouve à quelque chose de puissant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué les dernières photos qu'on a pu voir liées aux inondations. Et quand on lisait les titres des journaux, les importantes tempêtes de la veille ont produit énormément de dégâts. Quand on était jeune, on regardait vite les toits des maisons parce qu'on pensait que c'était le vent. Aujourd'hui, c'est le socle urbain qui s'arrache. Hein, donc il faut avoir en tête que c'est pas par hasard qu'on vient à la gestion de l'eau à la parcelle, des choses que vous connaissez aujourd'hui, l'infiltration, etc. Et finalement, si on est capable d'infiltrer l'eau à la parcelle, une infiltration de surface, hein, il faut pas faire des puits perdus qui envoient l'eau directement, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'infiltration de l'eau, elle n'est pas verticale, elle est horizontale, parce que l'eau, elle n'est pas faite pour disparaître à toute vitesse au sous-sol, elle est faite d'abord pour être utilisée par tout le monde. Donc elle se répartit, elle gonfle la terre végétale, 50% de la terre peut prendre de l'eau, etc. Donc pensez plutôt infiltration de surface. Hein, le coefficient de transparence hydraulique d'un terrain, ce serait un coefficient qui se calcule par la surface utilisée par l'infiltration pour être sûr qu'on ne va pas tout concentrer. On ne va pas faire un réseau d'assainissement classique, grille à valoir, caniveau, tabouret, siphon, etc. et puis simplement l'infiltrer au plus profond. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est vraiment ruisseler l'eau en surface, etc. Alors, quand on dit ça, il faut avoir en tête que le bon sens nous a conduit sur chacun de nos projets à 6 mètres. Donc, on déconnecte, on plante, on renforce, etc. Mais sachez que la totalité des projets quotidiens d'une ville ne régénère le tissu urbain que de 1% par an. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 99% restants? Qu'est-ce qu'on raconte à une réunion publique, à des riverains qui s'aperçoivent qu'ils habitent un quartier qui a été rénové il y a 7 ans, sans vraiment des principes d'adaptation au réchauffement climatique, et qui vont se rendre compte que leur prochain tour, c'est dans 40 ans? Parce que si on pense adapter nos villes uniquement en s'hébergeant sur le rythme des autres projets, on n'apportera jamais la réponse au bon niveau et dans le bon tempo. Donc il faut être capable de remettre en mouvement la ville qui ne porte pas de projet. Et pour ça, il faut être capable de faire ce qu'on appelle, par exemple pour l'eau, des schémas de déconnexion. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'évaluer à la parcelle cadastrale quel est le potentiel de déraccordement des réseaux d'assainissement d'une ville ? Exercice que nous avons fait à Blois, par exemple. Et alors, ce qui était assez génial, pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, c'est que c'est réversible. Quand on étudie à la parcelle cadastrale la totalité du tissu existant, on arrive avec un indice de facilité. Est-ce que ça va être très facile, facile, moyennement facile, difficile ou pas? On arrive à 50% du tissu cadastral existant est très facile ou facile et 20% complémentaire est moyennement facile. C'est-à-dire que le coût est jouable. On peut réverser le système urbain, question de l'eau, de 70%. Je vais donner des chiffres. La surface active de Blois, celle qui intercepte le cheminement naturel de l'eau, elle intercepte 340 000 m3 par pluie d'orage. Chaque fois qu'il pleut, il y a 340 000 m3 qui ne va pas dans le sol. 340 000 mètres cubes, c'est un chiffre important, mais finalement, relativement, ça veut dire quoi ? Ben, c'est 7 minutes de la Loire. C'est-à-dire, c'est comme si vous interrompiez 7 minutes de la Loire. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même un système dont on ne peut pas être fier. Mais une fois qu'on a réussi à repérer la totalité de ces endroits où on peut infiltrer en surface l'eau de pluie, on a recensé les endroits où il faut végétaliser. Parce que comme c'est bien par ces sols ouverts qui vont re-rentrer dans le cheminement naturel de l'eau qu'il faut privilégier la plantation. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que 70% des parcelles cadastrales, mais les parcelles cadastrales, c'est quoi ? C'est le domaine privé de la ville, c'est le vôtre, c'est le nôtre. Le domaine public de la ville, c'est que 20% de la ville. Donc si on pense arriver à bâtir des stratégies d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique en ne mobilisant uniquement le domaine public, on fera rien. Parce que imaginons qu'une équipe municipale hyper efficace qui en un mandat réverse 20% de ces 20%, il a bougé de 4%. Donc c'est pour ça aussi que Gilles disait très bien, ça se fera avec les entreprises, il faut absolument que ça se fasse avec les entreprises, par pragmatisme là aussi, par engagement, etc. Parce que, vous détenez le foncier, vous détenez les chefs de projet, etc. Et c'est par là que la solution va se passer. Un chiffre sur l'eau encore à Blois.
Un chiffre de conclusion.
La même étude sur le domaine public. C'est plus 50% facile ou très facile, c'est plus que 20%, d'accord ? Mais surtout, l'enjeu est de 15 600 m3. C'est-à-dire que par rapport aux 160 000 m3 qu'on pourrait remettre dans la nappe par rapport aux 340 000 de tout à l'heure, l'enjeu du domaine public, c'est que de 15 000 m3. Et ce rapport de 1 à 10, c'est finalement le rapport qu'il peut y avoir à embarquer dans des stratégies communes, le monde du privé et le monde du public, dans justement des politiques communes, etc. C'est ce que vous faites et c'est ce qu'il faut qu'on accompagne absolument. Et moi, je pense qu'il est impératif de renouer le contact encore plus fort entre l'écologie et l'économie parce qu'on sera trop peu de tous ensemble pour y arriver. Voilà, merci.
Merci Jean-Marc. Signalons que dans votre travail, vous croisez des données satellites extrêmement précises jusqu'à des carrés de 20 cm par 20 cm ainsi qu'une vue globale de la ville pour identifier ces lieux où vous pouvez agir sur le domaine privé comme le domaine public. Et puis, nous sommes enrichis d'un nouveau terme à réviser ce soir, un paysagiste concepteur, comme quoi c'est par définition pluridisciplinaire le coefficient de transparence hydraulique, interrogation à la fin de la séance. Alors, je me tourne vers maintenant Olivia Conil-Lacoste. Olivia, comment faites-vous pour déployer une ambition fondée sur la conviction, notamment de Bernard Mounier, votre président, qui, lors de la première émission, nous a indiqué ce qui le motive à mettre toute l'entreprise et tous les collaboratrices et tous les collaborateurs en mouvement en faveur du climat et, en ce qui vous concerne en particulier, de la biodiversité.
Oui, je crois qu'on a bien compris aujourd'hui, le promoteur immobilier, l'aménageur, il doit s'engager à deux points de vue sur la biodiversité et la nature. D'une part, la préserver, continuité naturelle, limiter l'artificialisation, l'imperméabilisation des sols, retenir les eaux pluviales, et puis d'autre part, développer vraiment des expériences de nature en ville avec des espaces paysagers qualitatifs, accueil de biodiversité et d'usage. Et ça a été dit aussi, il y a une vraie attente aujourd'hui de nos clients à avoir des espaces extérieurs. Alors Bouygues Immobilier ne part pas de rien sur ce chemin-là. On a beaucoup de convictions et puis ça fait depuis 2014 qu'on est engagé sur ces sujets. On est membre du CIBI, donc il y a des représentants qui nous écoutent, Comité International Biodiversité et Immobilier. On a quasiment 19 projets qui sont labellisés ou en cours de labellisation. Et j'aime bien citer le premier d'entre eux qui a été labellisé, Fonprêt, une opération de logement, 800 logements avec des résidences gérées où il y a quand même 10 000 m2 d'espace vert et sur lequel on a beaucoup travaillé main dans la main avec la LPO pour sensibiliser les preneurs, sensibiliser les syndics, réintroduire le Martinet dans la région. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est vraiment de massifier notre action et se dire on ne s'arrête pas au projet exemplaire, on veut vraiment embarquer l'ensemble de notre production. Et c'est peut-être là qu'est le vrai challenge, se dire à 3 ans, 100% de nos projets limitent l'artificialisation et l'imperméabilisation et recréent des expériences de nature. Alors comment on fait pour faire ça ? La première action phare qu'on a lancée, c'est une calculette de la biodiversité. Une calculette, un véritable thermomètre qui va vous dire sur un projet quelles proportions de surfaces sont favorables ou pas à la biodiversité. Alors les surfaces favorables, ça va être surfaces végétalisées, ça va être les surfaces perméables, par exemple, à différents niveaux d'épaisseur. Et puis les surfaces défavorables, c'est évidemment les surfaces qui sont totalement imperméabilisées et qui ne laissent pas passer l'eau. Aujourd'hui, on est capable chez Bouygues Immobilier de scorer 100% de nos projets avec cette calculette. On le fait depuis 2020 et donc c'est un outil pour piloter le progrès. Et aujourd'hui, c'est une performance biodiversité qu'on demande, sur laquelle on demande des résultats déjà en phase de conception. Donc je pense déjà qu'on se met déjà dans un chemin de progression. Et on va même arriver à avoir des projets qui font mieux après qu'avant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir calculer de manière totalement exacte qu'il y a plus de biodiversité après qu'avant sur la parcelle initiale. C'est le cas par exemple de notre projet California en immobilier tertiaire à Malakoff. C'est un projet extrêmement végétal, 4 500 m² de jardins et de terrasses. Mais quand on a fait le différentiel, les équipes ont vu que ça passait pas, c'était pas encore mieux après qu'avant. Donc ils ont retravaillé le projet et aujourd'hui, il est en biodiversité positive. C'est le cas aussi, par exemple, au niveau du quartier Nanterre Cœur Université. On est parti, on a travaillé sur une friche qui était quand même déjà morcelée avec des trams, des transports, etc. Et on a recréé de la nature, pas n'importe comment, en réintroduisant de la biodiversité et en créant des espaces de nature. Sur ce Nanterre Cœur Université, il y a deux immeubles qui ont des toitures terrasses partagées, qui sont extrêmement vivantes, avec des potagers partagés, avec une animation qui a été faite par des associations pour animer les habitants. Et aujourd'hui, c'est une vraie bouffée d'oxygène et c'est une vraie connexion à la nature dans un environnement dense. Donc, on a les solutions aujourd'hui pour densifier de manière agréable, arrêter d'étaler la ville. Et voilà, et construire comme on l'a dit, on pense que c'est une solution. Un dernier exemple aussi, Géophoros, ce fonds qu'on a monté avec Omnes Capital juste avant l'été, qui va avoir pour vocation d'aller préempter des friches inutilisées ou dégradées pour construire des bâtiments de qualité architecturale, mais évidemment aussi bas carbone et qui font une belle place à la biodiversité. Donc, on libère de l'espace, on remet de la biodiversité en ville, et on a une approche par les surfaces, compréhensible des concepteurs, mais on ne le fait pas n'importe comment. Pour faire ça, on s'entoure aussi d'un écologue, comme on le fait sur les projets Biodiversity. En amont du projet, on va aller étudier le site, on va regarder ses spécificités, et ça va orienter la conception de nos projets. Et puis enfin, il faut qu'on guide nos équipes à la fin sur les espaces extérieurs. Aujourd'hui, on arrête le green de golf avec 3 arbres plantés. On a lu dans Le Monde la semaine dernière que le gazon, c'est très statutaire. C'est très bien, mais le gazon, c'est pas très vivant, c'est pas très accueil de biodiversité. Donc, on travaille chez Bouygues Immobilier sur un cahier des charges paysager, biodiversité, qui va nous permettre d'aller travailler des jardins avec du multistrate, vous le disiez, avec des usages, puisqu'on voit que c'est si bénéfique à la santé, à la convivialité. Et c'est ces jardins-là qu'on veut accoler à l'ensemble de nos projets, non pas de manière anecdotique, mais vraiment constitutive du bâtiment.
Des outils pour mesurer, des outils pour valoriser, et puis de l'acculturation et de la formation aux enjeux et aux solutions de biodiversité, aussi au climat et au carbone. Saluons à nouveau Guillaume Carlier. Une question pour vous tous, et Pascal va avoir la chance de répondre, ou le handicap, de répondre la première parce qu'elle doit nous quitter un petit peu plus tôt que la fin de l'émission. En fait, quand je vous écoute les unes et les autres, l'humain est au cœur de la manière dont vous envisagez le rapport au vivant, à la biodiversité. Et je me dis qu'au fond, ce n'est pas si anthropocentrique que ça, c'est même un atout pour mieux vivre et mieux affronter et nous mettre en mouvement pour changer de paradigme et fameux et lutter contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. On parle beaucoup, et vous l'avez pratiquement tous cité, d'expériences de nature. Alors jusqu'à présent, les palmarès, Jean-Marc en connaît, la filière du végétal en sort régulièrement avec des instituts de sondage, les palmarès des villes vertes sont principalement liés à une notion de surface d'espace vert par habitant. Est-ce que, et vous pouvez détourner ma question pour apporter votre réponse, est-ce que l'expérience, le rapport sensible qu'on doit avoir au vivant n'est pas le nouveau critère, ou en tous les cas un nouveau critère, dans notre rapport au paysage urbain ? Pascal, bon courage, vous avez 2 minutes et non pas 3 heures.
C'est chaud. L'expérience du vivant, oui, je pense qu'on a besoin de se retrouver un peu tous, pas uniquement au centre de cette pyramide ou tout en haut de cette pyramide, mais de se réintégrer au milieu de la pyramide et Moi, ce qui m'intéresse par-dessus tout, peut-être, c'est aussi la question de la physionomie de la ville, la physionomie des quartiers, de ce dans quoi on habite. Et pour moi, travailler avec le vivant, c'est une manière de répondre à trois sujets. D'abord au sujet environnemental, parce que quand on fait des toitures terrasses, la question de l'eau se résout pratiquement d'elle-même. Quand on rapporte du vivant au balcon, dans des équipements, etc., on voit bien les résultats sur la santé et le mental que ça crée. Ces études sont très intéressantes, j'en avais parcouru plusieurs il y a quelques temps. Donc la question environnementale est fondamentale, pour moi. Il y a un deuxième sujet, c'est que ça questionne les fondamentaux architecturaux, parce qu'en fait, l'école de Boulogne, vous ne la voyez pas, mais elle est faite, son mur, c'est 3500 blocs de béton préfabriqués qui font 3 mètres de long. Enfin, ça nous a conduit à expérimenter une architecture inédite. Et je pense que l'accueil du vivant, c'est aussi ça. C'est aussi se reposer les questions. On a construit comme ci, on a construit comme ça. Aujourd'hui, on arrive, on est en 2021. Qu'est-ce qu'on a envie de donner? Comme, je ne dis pas qu'il faut faire du folklore ou qu'il faut être trop formaliste, ou ce n'est pas Disney non plus, mais ça nous conduit quand même à repenser le chemin de l'eau sur une façade. Est-ce qu'on veut de l'eau qui percole tout doucement? On veut créer des vasques? Ou alors est-ce qu'on a besoin que ça aille vite? Ça nous conduit à repenser la question de la lumière, l'ensoleillement, etc., le parcours de la lumière. Donc le deuxième sujet, donc, l'architecture, comment est-ce qu'elle est requestionnée par ce sujet? Et le troisième, c'est un sujet humain, c'est comment est-ce que le rapprochement de ce vivant, à un moment, crée du commun, ce dont on a tous besoin, ce qui est en train de s'appauvrir cruellement dans les villes denses, comment est-ce que autour de la question, pas forcément, ça peut être un jardin, mais en fait, ça peut être plein de choses, le vivant. Et ça peut être juste une vue sur les 10 platanes de la place d'Armes ou d'une ville ou d'une rue parisienne. Et comment est-ce que cette question du vivant, à un moment, elle repose aussi la question de nos relations entre nous, parce que finalement, si on est capable d'accueillir une certaine diversité dans la ville, une diversité, une biodiversité, c'est une manière d'être plus altruiste, c'est une manière d'accueillir aussi les différentes espèces et les différences entre nous humains. Donc je pense que là, il y a toute une filiation qui, moi, me motive énormément pour travailler dans cette direction et pour arrêter de séparer ces deux mondes minéral et végétal.
Merci beaucoup Pascal, Dalix. Alors, quelqu'un d'autre, pendant que Pascal nous quitte, pour compléter, apporter une réponse à cette question du lien sensible de l'expérience des expériences de nature. Safia, peut-être.
Peut-être brièvement, parce que j'ai déjà parlé de l'expérience de nature, de rappeler que les chercheurs parlent de l'expérience du awe, donc ce moment où on est immergé dans la nature et où on ressent de l'admiration, de la fascination, de l'émerveillement. Eh bien, ces chercheurs-là ont constaté que vivre de telles expériences était source d'altruisme et de comportements prosociaux. Les personnes qui vivent une expérience forte en nature sont plus aptes, volontaires, à faire du bénévolat ou à agir en communauté. Donc il y a quelque chose qui nous reconnecte au monde et aux autres. Il y a le projet Transfert de l'ADEME qui nous montre que l'expérience que l'on a dans sa vie personnelle se répercute dans sa vie professionnelle. Et enfin, Gérard Boss, qui est donc le directeur mondial du programme Business et biodiversité à l'UICN, nous raconte via son expertise à Veolia qu'il a été faire avec des dirigeants une escapade en montagne, et une fois revenu de cette expérience, les dirigeants se sont sentis beaucoup plus reconnectés, ce sont leurs mots, et engagés, prêts à engager leur entreprise davantage sur le chemin de cette transformation écologique.
Donc assertion que l'on dit souvent, plus on vit collecté à la nature, plus on la protège, se vérifie. Je vous invite vraiment à lire cette étude Nature, Santé, Engagement. Merci Safia. Alors, un complément par Olivia et Jean-Marc, peut-être.
Non, moi je pense que
avant le mot de la fin.
Votre question est très intéressante parce qu'en fait, elle remet au centre la question du comportement. Si on veut faire vivre des expériences de nature à nos clients demain, il faut qu'on les comprenne. C'est pas une mince affaire en fait. Nous, on est habitués à faire des bâtiments, à travailler. Donc, on doit tout d'un coup changer de mindset. C'est pas un hasard si chez Bouygues Immobilier, il y a une direction du design qui vient de se créer. C'est plus direction de l'innovation, c'est direction du design. Parce que justement, on a cette conscience que les comportements, pour créer des lieux désirables où on a tous envie de vivre, pour inspirer des comportements respectueux et responsables, on a besoin de bien comprendre à qui on a affaire et comment comment ces comportements s'intègrent dans la ville. Et du coup, ça m'inspire aussi d'inviter les collaborateurs de Bouygues Immobilier à écouter la semaine prochaine Jacques Fradin, qui est un comportementaliste neurocognitiviste qui va intervenir chez nous et qui, justement, porte ce sujet-là en disant il y a un GIEC pour le climat, il y a un GIEC pour la biodiversité, mais il peut aussi y avoir un GIEC du comportement. C'est quelque chose qui s'étudie, c'est quelque chose... On doit enrichir nos équipes, en fait, avec ce type de savoir et de compétences.
Monsieur Bouillon.
Oui, alors une petite réflexion. L'étude récente d'un doctorant là, sur le rapport entre les troubles de l'anxiété et la nature en ville parle d'état de conscience immédiate.
Bastien Vajou.
Intéressant, oui. Et donc, l'état de conscience immédiate, c'est quand on est dans un espace vert, on rentre dans un état de conscience immédiate, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'anxiété parce qu'on est dans l'immédiat. L'anxiété, c'est soit le futur, soit le passé. Donc, c'est régénérant. Il faut avoir ça en tête. Deuxième chose que je voulais dire, ce retour de la nature en ville, qui va être extrêmement important, ne va pas se faire que simplement. Parce que la ville, c'était quand même l'élimination du sauvage. On voulait contrôler le truc. Quand on s'était sorti de la forêt, des chemins creux et qu'on arrivait en ville, ouf. Et là, cette nature qui va revenir, elle va arriver avec tout un cortège de choses qu'on n'est pas nécessairement prêt à comprendre aussi facilement. Se retrouver à Paris ni à nez avec un blaireau, avec un renard, etc. C'est pas que évident. Imaginez-vous le monde de la culture qui a été organisé pour défendre l'architecture patrimoniale, une architecture minérale qui s'était plutôt donné ouverte au soleil et qu'il faudra refermer avec les végétaux, ça ne va pas être que simple. Et la dernière chose que je voulais dire, la notion d'expérience nature, c'est important, mais aussi la donnée tangible, ça l'est aussi, parce que nous partons, les écologistes, le monde du paysage, on est dans les sciences molles quelque part, et on nous a souvent opposé, moi, pendant tout le XXe siècle, oui, c'est bien joli tout ça, mais quand même, la bonne technique, un bon algorithme, un bon calcul, au moins ça prouve que c'est efficace. Et donc, arriver à faire ces diagnostics inédits, multiples, avec la lecture algorithmique des photos aériennes, ça va pouvoir nous permettre de prouver que des solutions naturelles sont des solutions qui sont efficaces, pragmatiques. Par exemple, nous permettre d'arbitrer entre cette nécessaire réversibilité dont je parlais par les sols ouverts par lesquels on peut infiltrer et la réserve foncière que ça permet dans la politique de la sobriété foncière. Parce que, par exemple, Angoulême a détecté que toutes ces dents creuses se cachaient 40 ans de réserve de foncier. Par exemple, mais si on les construit tous, où on va infiltrer? Donc on a besoin d'avoir des diagnostics extrêmement précis, techniques, etc., pour pouvoir arbitrer au bon niveau et conserver un espoir d'avoir des villes aimables. Voilà.
Des outils pour visualiser, qui s'appuient sur la science, de l'émotion. Voilà. Je crois qu'on pourrait résumer, c'est très difficile, cette émission. Il y aurait beaucoup d'autres questions à poser à nos intervenantes et nos intervenants, mais nous arrivons bientôt au terme de cet échange. Simplement, une invitation, vivre l'expérience du vivant, c'est bien à travers un écran, c'est encore mieux en vrai. Et alors, je vais faire un clin d'œil qui va dater le podcast que celles et ceux vont réécouter. Il y a eu récemment la disparition de Jean-Paul Belmondo. Alors je vais essayer un parallèle. C'est sur une chaîne de TF1 que j'ai vu pour la première fois, je dois l'avouer, Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, qui m'a bouleversé, je pense, comme toutes celles et ceux qui l'ont vu, de même que la ritournelle de Francis Lai, cette musique incroyable. Et au fond, tentons peut-être un parallèle, et à vous de juger s'il est hasardeux. Sam Lyon, c'est son nom, a été nommé ainsi parce qu'il a été recueilli dans un cirque. Il devient « dompteur », entre guillemets, mais pas, je ne le prends pas comme une relation de domination. Il a apprivoisé, mais aussi apprivoisé sa peur, et vous avez cette scène formidable où, sous l'œil admiratif de Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo descend de son véhicule et va au-devant du lion, au mépris de toute règle de sécurité. Et à un moment donné, il décide, pour tout un tas de raisons dans sa vie, de décrocher, de changer de cap, comme il l'avait fait 10 ans auparavant en devenant un des leaders mondiaux de la propreté. Ça montre quoi? Ça montre que dans tout ce qu'on a évoqué, il y a des enjeux prégnants. Réécouter avec détail la synthèse formulée par Françoise Vimeux, climatologue du rapport du GIEC, lisez cette synthèse à l'intention des décideurs et regardez les infographies. Écoutez et lisez Gilles Boeuf ainsi que les nombreux biologistes qui nous parlent de l'érosion du vivant, et n'ayons pas peur d'oser, d'expérimenter, comme le disait Pascal Dalix et comme vous le disiez les uns et les autres. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Nous avons eu grand plaisir, je crois, à nous rassembler. Et puis, les semaines européennes du développement durable ne sont pas terminées. Et surtout, grâce à la réécoute, nous pouvons nous retrouver très bientôt. Générique.
Biodiversité et climat, même urgence, même combat. Un cycle d'émissions organisé par Bouygues Immobilier sur Radio Immo et Radio Territoria.